Roland Marchal, bonjour.
Bonjour.
Vu les 400 000 morts de la guerre civile, est-ce que beaucoup de Sud-Soudanais ne regrettent pas l'indépendance ?
Non. Je crois paradoxalement non, et je le dis alors que je n'ai jamais été personnellement un très grand admirateur du mouvement populaire de libération du Soudan, donc qui a conduit la guerre civile et abouti à cette indépendance. Moi, j'ai toujours pensé personnellement que cette indépendance était venue trop vite et très mal préparée sans explorer d'autres solutions. La population au Sud-Soudan a voté ultra majoritairement pour l'indépendance. Je crois aujourd'hui, même si beaucoup de gens ont les larmes aux yeux en pensant à tous ceux qu'ils ont perdus depuis 10 ans, je crois qu'il y a très peu de regrets quand même sur le fait que le pays est devenu indépendant.
Et ce qui frappe depuis 10 ans, c'est l'hostilité entre les deux communautés principales du pays, les Dinka de Salva Kiir et les Nuer de Riek Machar. Est-ce que c'est vraiment indépassable ?
Écoutez, moi je poserais le problème autrement. Ce qui est frappant, et ce qui d'ailleurs avait été vu à l'époque, c'est au moment de l'accord de paix, donc 5 ans ou 6 ans avant l'indépendance, c'était que c'était un accord entre deux pouvoirs. Ce n'était pas un accord qui allait redonner la parole à la population du Sud-Soudan. C'était très clairement le Nord-Soudan appartenait à Omar el-Béchir et au Parti du Congrès National, et le Sud-Soudan appartenait au MPLS, donc le mouvement qui était alors dirigé par John Garang.
Et alors, qu'est-ce qui vous permet de dire que cette indépendance a été mal préparée ? Qu'aurait-il fallu faire ?
Alors écoutez, dans l'accord, il y a toute une, dans le, disons, ce texte préliminaire, il y a toute une série d'impasses sur les rapports entre les deux États, sur la situation de la diaspora, sur la reconstruction de l'État, et que seul le mouvement de guérilla est représenté, pas les autres partis, pas la population. Il n'y a pas du tout cette volonté de coopter des gens comme on a pu le faire et le vouloir dans d'autres conflits. Et puis, surtout, le conflit au Darfour provoque beaucoup plus d'émotions dans les opinions publiques, donc on se concentre là-dessus, et d'une certaine façon, on n'a peut-être pas prêté toute l'attention qu'il fallait alors au début, c'est-à-dire aux prémices de la construction ou de la reconstruction d'un appareil d'État au Sud-Soudan, et de la place qui était faite aux uns et aux autres, pas simplement des groupes armés rebelles, mais également des expressions, à parler de société civile, peut-être ça fera sourire, mais en tous les cas, des expressions de la population civile qui finalement, dans ce conflit, ont été brutalisées, évidemment dans la guerre, par l'armée et les milices financées par Khartoum, mais finalement aussi beaucoup par le MPLS.
L'éclatement de la guerre civile en décembre 2013, à qui la faute ? À la volonté hégémonique de Salva Kiir ou à la tentative d'un putsch de la part de Riek Machar ?
Oh, je crois que l'idée d'un putsch a été récusée depuis très longtemps. Salva Kiir est un personnage assez compliqué. Sous sa rudesse première, Salva Kiir avait fait des promesses disant qu'il abandonnerait le pouvoir une fois les élections organisées, qu'il n'entendait pas être candidat. Son entourage ne le voyait pas du tout comme ça. Et passer la main comme cela avait été implicitement acquis à son vice-président qui a lui-même de très grands défauts, c'était quelque chose qui était inacceptable. Donc c'est aussi les entourages qui ont joué des deux côtés des rôles de pouce au crime au sens fort du terme, puisque des crimes de masse ont été commis de part et d'autre dans la guerre civile.
Y a-t-il une instrumentalisation du ressentiment ethnique de la part de ces deux chefs politiques, Salva Kiir et Riek Machar ?
Mais bien sûr, il y a eu des compétitions. Beaucoup de griefs qui sont aujourd'hui énoncés entre Dinka et Nuer sont des griefs qui sont ancrés dans l'histoire de la guerre civile, donc qui commence en 1955. Mais si vous voulez, à la place de mener des actions de réconciliation au niveau local et d'une certaine façon de clôturer la guerre civile aussi au niveau des sociétés locales, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une absorption de la rente par le haut au niveau des différentes factions de la direction, et puis la population s'est retrouvée plus pauvre qu'elle n'était. À l'indépendance, c'était 50% sous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, ils sont à 80%. Donc, merci au pétrole, merci à l'indépendance et surtout merci à Salva Kiir et Riek Machar.
Est-ce que vous partagez l'opinion de la chercheuse Clémence Pinault qui dénonce au Sud-Soudan la mise en œuvre d'un processus d'accaparement des terres et de remplacement démographique au profit de l'ethnie Dinka ?
Alors, le problème est que les Dinka, c'est, comme les Nuer d'ailleurs, une fédération de différents groupes. Et là, ce qu'on pourrait voir, c'est également une très forte hostilité dans certains sous-groupes Dinka, des alliances, disons, hétérodoxes avec certains groupes Nuer, et tout ça, évidemment, dans un but qui reste le même et qui est dans l'accaparement des terres et du pouvoir politique pour l'essentiel par des Dinka, pas par les Dinka.
Alors depuis 3 ans, il y a une accalmie quand même sur le terrain. Il y a un gouvernement d'union nationale, il y a depuis 2 mois un Parlement reconstitué. Est-ce que tout cela ne va pas dans la bonne direction ?
Écoutez, on voudrait l'espérer. D'un autre côté, il faut nommer les gouverneurs, il faut surtout que les institutions se mettent en place. Il faut construire du droit. De plus, si vous voulez, vous avez aujourd'hui une multiplicité de groupes armés, alors qu'on peut appeler les différents segments d'une armée sud-soudanaise en formation, pour être très gentil. Mais ces groupes-là continuent à mener des escarmouches les uns contre les autres. Et l'idée qu'on puisse, dans un avenir relativement proche, aboutir à une armée nationale à peu près décente, avec une chaîne de commandement unique et une composition nationale, ça reste, à mon avis, un vœu pieux, même si beaucoup sud-soudanais et communauté internationale essayent de s'activer dans ce sens.
Le 25 mai, le gouvernement a lancé le processus de mise en place d'une constitution en vue peut-être d'élections générales dans 2 ans. Est-ce que cela vous paraît possible ?
Le Sud-Soudan, si vous voulez, la population, ce qu'elle entend plus dans la constitution, c'est le mot « élection ». Et là, il faut raison garder et surtout, il faut se dire que les élections pour être organisées dans des conditions décentes au Sud-Soudan vont nécessiter une infrastructure administrative et une capacité logistique qui aujourd'hui fait totalement défaut au gouvernement sud-soudanais, y compris s'il y a une aide internationale massive.
Est-ce qu'il y a une lassitude de la guerre et finalement l'acceptation par les deux principaux camps d'une sorte de partage du pouvoir ?
Peut-être, au moins chez certains. Et puis, le fait que le Khartoum ait changé, le fait également que le Kenya et l'Ouganda ont leurs propres problèmes en ce moment, c'est peut-être effectivement un moment qui permet de faire baisser la tension et de rêver, peut-être d'espérer, certainement d'essayer d'avoir, disons, une vie politique un peu plus normalisée. Ce qui est sûr, c'est que les bonnes relations avec le nouveau gouvernement à Khartoum jouent réellement un rôle extrêmement positif pour limiter les effets de spoiler qu'on a eu tellement souvent sous Omar el-Béchir, d'un côté, et puis aussi montre qu'il est possible d'avoir des bonnes relations avec l'ennemi d'avant, puisque quand même le Nord-Soudan reste pensé comme un ennemi pour l'essentiel de la population du Sud. Et donc ça incite aussi à se dire que si on arrive à avoir des liens non hostiles avec eux, on peut peut-être avoir aussi des liens non hostiles avec ses voisins, Nuer ou Dinka, ou autres d'ailleurs, parce qu'il y a bien d'autres conflits que ces deux-là.
Roland Marshall, merci.